Alors moi c'est Ahmed Dakmak, j'ai 27 ans, je suis actuellement apprenti ingénieur au sein de l'école Supméca et apprenti du coup dans l'entreprise Renault, donc au sein du département emboutissage. Donc l'emboutissage c'est la partie carrosserie et pièces de structure du véhicule. Et je ne suis pas dans la partie conception, mais dans la partie fabrication. Donc méthode de fabrication, études de faisabilité, ce genre de choses. Donc voilà, c'est ce que je fais actuellement. Et là, j'entame ma dernière année en tant qu'apprenti. Avant d'entrer à Supméca, j'étais étudiant à l'université Paris 6, l'université Pierre et Marie Curie. Et en dernière année de licence, avant de commencer mon parcours en apprentissage, j'avais fait une licence en mécanique et j'avais fait mon stage de licence dans une entreprise d'aéronautique qui s'appelle UTC Aerospace. Et là, par contre, c'était pas du tout des méthodes de fabrication, mais du produit, donc dessin industriel, très très technique. Et c'était sympa, mais ça m'a pas forcément fait rêver. Et c'est au cours d'un entretien lors de la recherche de l'apprentissage. Quand on recherche un contrat d'apprentissage, c'est un peu le parcours du combattant des fois. Donc pendant ces recherches, j'ai eu un entretien chez Renault qui m'ont parlé justement du bureau des méthodes et des procédés de fabrication, des études de faisabilité. Et la personne que j'ai eue pendant cet entretien m'a vraiment convaincu sur l'intérêt du poste et des missions qui pouvaient m'être proposées. Et j'ai voulu essayer. Alors à ce moment-là, j'allais pas encore en études d'ingénieur. Je partais pour une licence pro. J'ai fait une licence puis une licence pro parce que je voulais avoir une vraie expérience professionnelle. Et j'ai fait un an de licence pro. J'ai adoré le bureau des méthodes. Et c'est eux qui m'ont proposé de poursuivre mon contrat vers une école d'ingénieur et pour 3 ans supplémentaires. Donc c'est vraiment eux qui ont voulu me garder à ce moment-là parce que ça s'était très très bien passé pendant ma licence et j'adore ce que je fais. Clairement, j'ai aucun regret d'avoir laissé tomber le bureau d'études pour aller dans le bureau des méthodes. C'est autre chose, c'est différent. Dans mon département, on est juste sur le site parce que quand on travaille pour le bureau des méthodes, il y a les gens qui sont dans le centre technique, le technocentre, qui est à Guyancourt. Il y a aussi les gens qui sont dans les différents sites industriels, donc dans les différentes usines, que ce soit à Flins, à Douai, à Maubeuge ou à l'étranger. Donc ça peut être en Espagne, à Palencia ou Valladolid, ou en Russie, à Togliatti, ou en Corée, à Busan, enfin dans le monde entier. Au total, juste pour l'emboutissage, ça représente à peu près 400 à 500 personnes. Mais globalement, sur notre activité, vraiment le cœur de mon activité, on est à peu près 150. Donc voilà. Et j'ai pas fait la même chose pendant 4 ans. J'ai beaucoup, beaucoup évolué. J'ai commencé en tant que ce qu'on appelle pilote process. Donc un pilote process dans l'emboutissage reçoit des pièces dessinées par le bureau d'études. Et une fois qu'il a reçu ces pièces, il fait des simulations grâce à des logiciels qui sont faits pour vérifier la faisabilité de la fabrication. Donc on a des méthodes de fabrication, des standards de fabrication, et grâce à ça, grâce à ces logiciels, on vérifie que le dessin qui nous a été donné est faisable, qu'on peut faire ces pièces-là. Et j'étais donc pilote process au début et je vérifiais la faisabilité en faisant plusieurs simulations. Mais c'est pas seulement de faire des simulations. Le travail de pilote process, il y a un gros travail d'échange avec les différents métiers. Comme l'emboutissage, c'est la caisse du véhicule, donc l'enveloppe, hein, la coquille, il faut parler avec tout ce qu'il y a autour. Donc la peinture, l'assemblage, l'architecture, le bureau d'études. Et il y a tellement de choses à prendre en compte, notamment la sécurité, parce que faut savoir que quand on fait les crash tests, il faut garantir une certaine rigidité de la structure. Et du coup, notre travail est très très important à ce moment-là. Donc, c'était beaucoup d'échanges et c'est vraiment ce que j'ai aimé. C'est toute cette partie contact avec les différents métiers, mais aussi avec les usines. Donc, partir sur les sites industriels, voir les différents retours expérience des anciens projets pour apprendre et améliorer encore plus les projets à venir. Donc ça, c'était la partie la plus intéressante. Donc, j'ai fait cette 1 an en tant que pilote process et après je suis devenu manager de l'activité emboutissage en Inde. Donc j'ai eu l'occasion de faire des voyages d'affaires donc pour partir rencontrer les équipes en Inde là-bas. Au début, j'avais que 2 personnes qui travaillaient avec moi, 2 Indiens sur le site de Chennai dans le sud de l'Inde et aujourd'hui ils sont 25. Donc l'activité a l'expérience, au début c'était une expérience, aujourd'hui c'est complètement une activité supplémentaire, remote engineering en Inde. Donc c'est vraiment du personnel complètement intégré aux équipes Renault, tellement ça a bien fonctionné en fait cette expérience qu'on a complètement étendu la chose. Donc, et aujourd'hui, depuis 3 jours, j'ai encore un nouveau travail. Donc là, je suis plus du tout dans la partie technique. Mais je fais du chiffrage, donc estimation du coût d'un projet et évaluation des besoins à venir sur les projets. Donc c'est ce genre de choses que je fais aujourd'hui. C'est un peu plus financier, mais tout aussi intéressant. Aujourd'hui, je manage encore, mais sous un angle différent. Je manage en France, mais plutôt des projets. Donc c'est ce qu'on appelle des activités transverses. Donc tout ce qui va permettre d'améliorer les outils de travail du département. Donc c'est capitaliser sur ce qu'on fait et gagner du temps sur les procédures notamment. Donc voilà, c'est plutôt ça, c'est des sujets assez importants parce qu'ils passent devant des comités techniques et ils sont soumis à validation de la hiérarchie. Donc au moins du chef de département, voire des fois plus. Mais c'est une prise de responsabilité supplémentaire, oui. Le secteur dans lequel je me vois rester, en tout cas, c'est le secteur de la fabrication et des méthodes. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui que j'apprécie et que je ne veux pas quitter pour l'instant, en tout cas. Après, le secteur d'activité en lui-même, automobile, je suis pas fermé à ça. Je peux fabriquer des voitures. Enfin, je pourrais être dans l'automobile comme dans l'aviation, comme dans les cocottes minutes. Pour moi, ça serait la même chose. Le plus important dans ce qu'on fait, c'est vraiment ce côté contact humain qu'on va avoir. L'ingénierie, en général, c'est quelque chose qu'on voit comme. Les ingénieurs, on les voit souvent comme des gens enfermés dans un bureau, qui réfléchissent à plein de choses et qui donnent des ordres. C'est pas vrai du tout. Et encore moins, dans la partie méthode. Là, on est obligé de collaborer avec beaucoup de gens et surtout de respecter tous les échelons de la hiérarchie, qu'ils soient au-dessus de nous ou en dessous de nous, peu importe. Parce qu'on a besoin de travailler avec tout le monde et de bien communiquer avec tout le monde. Et c'est ça l'intérêt. Je sais que Renault veulent me garder, ça c'est acté, ils en parlent déjà. Ils ont quand même beaucoup capitalisé sur moi, à savoir tout le temps passé à m'apprendre des choses et toutes les missions qui m'ont été confiées. Mon objectif, en tout cas, c'est d'améliorer mon expérience à l'international. Même si, effectivement, j'ai eu des petites expériences par des voyages avec mon entreprise, mais jamais une longue expérience à travailler sur du long terme avec des gens à l'étranger. Ça, j'ai jamais fait. Et c'est vraiment quelque chose que je veux faire et le plus vite possible. La chose qui me fait vraiment aimer mon métier, c'est le côté challenge. C'est vraiment un défi tous les jours. Il n'y a pas une journée qui est comme celle d'avant. Toutes les journées sont différentes. Il n'y a pas de routine qui s'installe. Chaque projet qu'on commence ou qu'on entame est totalement différent du précédent. Et l'intérêt de chaque nouveau projet est de faire mieux que celui d'avant. Donc ça, c'est vraiment la partie la plus intéressante du projet. Je suis joueur. Donc ça, du coup. C'est quelque chose que j'aime bien. La partie que j'aime le moins dans mon métier, c'est le côté financier. Il y a un gros côté, il faut faire des économies partout. Des fois, c'est comme si on nous disait de sacrifier la qualité pour le coût. Bon, on sacrifie jamais la sécurité hein, dans l'automobile, ça c'est quelque chose d'impensable. Mais bon, des fois, on se dit qu'avec un petit peu plus de moyens, on pourrait faire tellement mieux. Et je trouve ça dommage des fois. L'entreprise en elle-même, Renault, c'est quand même un honneur hein, de travailler pour cette boîte. Hein. C'est quelque chose, donc c'est sympa. En fait, on a une valeur ajoutée complètement ahurissante par rapport aux personnes qui sortent de formation initiale. Aujourd'hui, la France pense encore, avec un peu de retard par rapport à ses voisins européens notamment, sur la question de l'expérience professionnelle. Aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure chez Renault, on arrive, on est dans une grille. Et l'alternance, dans beaucoup d'entreprises, est dans le bas de la grille. Mais la tendance aujourd'hui, c'est que ça remonte. Parce qu'on se rend compte que les apprentis, c'est des gens qu'on n'a pas besoin de reformer. C'est des gens, ils arrivent en entreprise, ils sont complètement autonomes. Ils arrivent, ils savent ce qu'il faut faire, ils ont déjà le langage corporate, ils savent communiquer par mail, ils savent chercher les informations. C'est des gens avec lesquels on gagne un temps considérable et surtout qui apportent une expérience antérieure dans peut-être une autre entreprise ou même dans la même entreprise mais dans un autre service ou même qui continuent mais qu'on n'a pas besoin de former et c'est assez impressionnant. Et aujourd'hui, un apprenti, c'est quelqu'un effectivement qui a beaucoup moins de connaissances théoriques que quelqu'un qui sort de Polytechnique, mais par contre qui va s'intégrer à la vie professionnelle beaucoup plus rapidement et qui va être, je pense, beaucoup plus sociable au moment de son intégration professionnelle parce qu'il connaît le milieu et c'est beaucoup plus simple. Je prends l'exemple hein, de Polytechnique, parce qu'on parle souvent de cette grande école, mais très peu de gens viennent de cette école, mais beaucoup viennent d'autres écoles d'ingénieurs qui sont beaucoup moins connues, beaucoup moins favorisées et du coup qui ont beaucoup moins de chance par rapport à un apprenti. Donc c'est sûr que quand on a fait une grande école, c'est très simple d'entrer dans une entreprise. Et quand on vient d'une école moyenne, ce qui est peut-être le cas de 90% des gens, une expérience professionnelle par l'apprentissage n'est absolument pas négligeable. Il y a une démarche de responsabilisation. Clairement, quand on arrive déjà dans le monde de l'apprentissage, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on n'est plus étudiant, on est salarié. On a les 5 semaines de congé, on doit les horaires à l'école. Ce sont des horaires payés par l'entreprise, donc on n'a pas droit à des absences. Si on s'absente, c'est parce qu'on est malade et donc qu'on doit fournir un arrêt maladie et pas seulement un petit mot du médecin qui dit qu'on est indisposé ou je sais pas, ou je ne sais quoi. C'est autre chose. Déjà, il y a une grosse fracture psychologique quand on rentre, quand on passe du statut étudiant au statut apprenti. On se dit, ah ouais, il y a quand même beaucoup de choses qui changent. Après, ça nous apprend aussi à comprendre ce qu'on fait à l'école et le lien qu'on peut avoir avec l'entreprise. Et bien souvent, on se rend compte que ce qu'on apprend à l'école, bah, c'est utile, mais plutôt pour une forme de culture générale et que chaque entreprise a ses codes. Aujourd'hui, je fais un parcours industriel, ça c'est mes études, mais ce que je fais en entreprise, enfin, ce que je peux prendre de mes cours et l'intégrer dans mes études, enfin, dans mon travail, ça représente peut-être 10%. C'est très peu de choses parce que chaque entreprise a une façon de fonctionner qui est très différente. Il y a la théorie, mais le concret, c'est autre chose. Par contre, l'entreprise apporte quelque chose que l'école ne pourra jamais apporter. C'est cette partie où on va à la pêche aux informations et on apprend à communiquer. Cette partie communication qui est primordiale. Un bon apprenti, pas un apprenti qui est surdoué, mais c'est un apprenti qui sait communiquer. Que ça soit sur son travail, que ça soit avec ses collaborateurs. Faire des PowerPoints, aujourd'hui, c'est peut-être l'angoisse de l'apprenti, hein. C'est comment je vais présenter mon travail. Bien présenter et faire passer le bon message. Et ça, c'est l'entreprise qui te l'apprend. À l'école, c'est pas grave si on rate une présentation. En entreprise, c'est pas le même enjeu. On nous responsabilise. On devient conscient de ce que c'est d'avoir une place dans l'univers professionnel. Et on veut pas perdre cette place, on se sent valorisé. Et je pense qu'on se sent d'autant plus valorisé quand on vient de banlieue. Parce que c'est quelque chose quand même pour nous qui c'est une découverte, hein. Cette partie dans l'entreprise, cette valorisation, qu'on nous demande notre avis, c'est fou quand même. Moi, j'aurais jamais pensé ça. Enfin, pour moi, quand j'étais au lycée, c'était pas quelque chose que j'envisageais, hein. Qu'un jour on puisse venir me consulter pour me dire qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que c'est pertinent? Tu peux me donner ton avis sur telle ou telle chose? Non, non. C'est une occasion unique pour nous de faire nos preuves, dans un milieu où on va être jugé uniquement sur nos compétences. Après, je sais que dans le milieu professionnel, on entend parler qu'il y a forcément des discriminations. Mais j'en ai subi des discriminations. Mais j'ai cassé tout ça par un travail encore plus intense, en montrant que j'étais meilleur que les autres. De toute façon, il n'y a que comme ça que tu le fais. Et franchement, on a encore plus de volonté que les autres grâce à ça. On veut faire mieux. Et aujourd'hui, ça se passe très bien. Aujourd'hui, dans mon entreprise, je suis vu comme n'importe quel autre salarié. Et je suis vu à travers mon travail, pas à travers autre chose. On m'a jamais parlé de mes origines, de ma banlieue, de machin. Aujourd'hui, c'est absolument pas un sujet que qui que ce soit va aborder. La première vraie discrimination, ça a été quand je cherchais mon apprentissage. Ah, c'est pas une discrimination directe et visible, hein, bien sûr, mais tu le vois au moment où tu passes tes entretiens, ou même au moment où tu envoies tes CV. Parce que clairement, j'ai dû envoyer, avant d'avoir mon premier entretien, j'ai dû envoyer, enfin, la première réponse, même pas le premier entretien, la première réponse, ne serait-ce que par mail ou par téléphone, j'ai dû envoyer 200 candidatures. C'est pas une blague, hein, c'est la réalité. Et quand je sais qu'à côté, certaines personnes qui, eux, elles avaient un nom différent du mien ou un prénom différent du mien, ou enfin, peu importe, hein, au bout de la 50e, de la 20e candidature, ils avaient déjà des réponses ou des propositions d'entretien. Enfin voilà. Je m'arrête pas sur ça. Je m'en fous. Le plus important, c'est ce que je suis aujourd'hui. Mais c'est une réalité. Et je pense qu'il ne faut pas se décourager. Et le problème, c'est qu'on a tendance, et beaucoup de gens perdent pied et perdent leurs moyens. Moi, il y avait quelqu'un avec moi au moment où on cherchait un apprentissage, parce qu'on avait des ateliers justement pour nous montrer comment on cherche, comment chercher, comment faire pour trouver un apprentissage. Il y avait quelqu'un avec moi qui lui, n'en a jamais trouvé, qui n'a même pas eu un entretien. Donc il y en a qui sont dans ce cas-là. Mais je pense que lui, par contre, s'est découragé progressivement, qu'il n'a pas gardé cette intensité dans ses recherches. Et c'est pas évident. Puis moi, j'avais aussi beaucoup de facilité dans ma façon de parler. Donc j'étais assez relaxé et puis assez détendu pendant mes entretiens. C'est important. Mais tout le monde n'a pas cette chance. J'en suis conscient. Et enfin voilà, il y a aussi beaucoup de chance de ce côté-là. Après, il y a aussi la discrimination au moment où tu intègres une entreprise, ou par exemple, il y a un événement médiatique qui peut se produire à la télé, et puis quand tu arrives le lendemain au bureau, tu entends les remarques des uns et des autres. Faut pas faire attention à ça, hein, mais c'est une réalité aussi. Ça, la première fois, c'est un peu blessant, hein, quand on entend ce genre de choses. Puis le pire, c'est quand les gens ils essaient d'être rassurants en disant mais on sait que toi t'es pas comme les autres. C'est qui les autres? C'est ça la question. Lors de tous mes échanges avec l'international, même avec l'Inde, hein, qui est une culture totalement différente de que ce soit de ma culture française ou de ma culture maghrébine, qui est totalement différent, et ben j'avais quand même une très grande facilité à communiquer avec mes interlocuteurs indiens, parce que j'avais cette ouverture culturelle où je devais jongler entre deux cultures différentes déjà depuis toujours, et puis j'avais cette capacité à comprendre les cultures des autres, parce que même à l'école, j'ai côtoyé différentes cultures, différents milieux sociaux, et c'était quelque chose de naturel pour moi. Et ça a été une grande qualité. Parce que moi, j'avais des résultats assez rapidement avec tous les gens avec lesquels je collaborais à l'international. Et surtout, les retours que ces gens-là faisaient de moi, c'était des retours extrêmement positifs. Et comme quelqu'un qui comprend, qui arrive à bien expliquer les choses, qui est patient, pédagogue, qui... Enfin, c'est souvent les mots qui revenaient. Mais ça, c'est justement lié à cette double culture et à cette facilité à comprendre les autres. Ça devient une chance au bout d'un moment, et il faut juste s'en rendre compte. C'est ça le plus difficile. La persévérance, c'est important, parce que on sera toujours confronté à des difficultés, que ça soit d'ordre professionnel ou personnel. Et je pense qu'il ne faut pas baisser les bras, il faut rester combatif. Je fais un peu mon philosophe, hein, mais je vais citer quand même quelqu'un que j'admire. Et c'est vraiment cette phrase-là qui a un peu guidé mes choix. Mandela a dit je ne perds jamais, je gagne ou j'apprends. Il faut vraiment garder cette idée en tête, c'est que même si on fait une erreur, on perd quelque chose, voilà, ça se passe mal au travail, il faut en tirer des conclusions. Et c'est à partir de cette idée-là que que je construis ma carrière. Ça veut dire que dans mon travail aujourd'hui, tout est basé sur les erreurs qui ont été faites avant. Je fais tout pour capitaliser sur ces erreurs-là, dire ok, on les a faites, très bien, pas de problème. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour ne plus les reproduire? Et ça, c'est le cœur de mon travail. Et je pense que c'est vraiment à travers cette idée-là qu'on peut avancer dans sa vie, qu'on peut avancer, qu'on peut devenir meilleur. J'ai toujours été un élève sympathique, ça c'est vrai, parce que je suis très souriant, c'est un peu ma grande qualité. Et les gens ont beaucoup de mal à se mettre en colère contre moi. Voilà. Mais j'étais enquiquinant parce que je travaillais pas. J'étais pas du tout un bosseur et je n'aimais pas travailler. Et j'étais même un élève très moyen à l'école. Vraiment limite, toujours à la limite. Toujours le 10, 10,2, 3, mais pas plus. Et ça depuis toujours. Il faut savoir que quand j'étais au collège, mon prof de maths me disait, bah écoute, tu pourras toujours devenir boucher ou boulanger. Ça, c'est quand même très fort comme message. Qu'est-ce qu'on peut véhiculer? Puis le conseiller d'orientation, il m'a jamais parlé d'une quelconque poursuite d'études post-bac. Il parlait que des métiers comme plomberie et maçonnerie ou électricien Et l'un des seuls endroits où je pouvais aspirer à autre chose, c'était à l'Atlas en réalité. Et je vais pas mentir, hein, sur ça, c'est une réalité. Parce qu'à l'Atlas, j'ai rencontré autre chose. Déjà, moi, j'étais très curieux. Ça, c'est une qualité exceptionnelle, hein. Pour moi, c'est la meilleure des choses, la curiosité. Et j'étais déjà très curieux. Et c'est à l'époque, c'était le mari de ma soeur qui m'avait inscrit à l'Atlas. Il m'a dit, ouais, tu vas voir, c'est cool. Puis comme j'étais un peu bavard à l'école et très dissipé, pas forcément, enfin, j'étais pas l'élève modèle, il m'a dit, ça t'occupera et tu verras autre chose que ce que tu peux voir à l'école et à la cité. Je dis, bon, ok, je fais l'Atlas. Et là, déjà, c'était cool parce qu'on pouvait manipuler des moteurs, des fers à souder, des perceuses, c'était génial. Puis j'ai rencontré enfin, la personne qui nous encadrait, c'était Jérôme à ce moment-là. Jérôme qui était élève ingénieur. Donc à l'époque, quand j'ai commencé, il était étudiant en BTS. Je ne savais pas ce que c'était un BTS. Et du coup, c'est grâce à lui que j'ai compris ce que c'était. Sans savoir comment on y accédait, je savais qu'il était dans un bon lycée, que ça se passait bien, qu'il allait devenir ingénieur et que c'est ce qu'il voulait faire. Déjà, ce qui était étonnant, c'est qu'il sache ce qu'il voulait faire. Moi, je trouvais ça déjà assez fou. Et j'ai découvert autre chose. Donc ça m'a pas forcément apporté quelque chose au niveau technique qui m'a permis d'être en avance sur les autres à l'école. Par contre, ça m'a ouvert l'esprit sur un aspect culture scientifique qui était complètement différent. Parce qu'à l'Atlas, il n'y avait pas que l'atelier robotique. Il y avait les ateliers astronomie, il y avait les ateliers chimie, enfin il y avait plein de choses. On avait l'occasion de côtoyer tous les autres animateurs scientifiques qui nous parlaient de ce genre d'atelier, ou même des fois on y participait. Et c'était super. Et c'est ce genre d'opportunité qui permet, je pense, aujourd'hui à un élève de penser à autre chose et puis d'avoir ne serait-ce qu'une idée de ce qu'il pourrait faire plus tard. Parce que c'est. En réalité, c'est ça l'enjeu, c'est donner juste l'envie de faire des études. Une fois que l'élève a l'envie, il n'y a pas de problème, hein. Il peut travailler, hein. Et l'autre opportunité, ça a été d'arriver au lycée dans une classe expérimentale. Et ça a été mené par Madame Pluchart, qui je fais une petite dédicace, qui grâce à elle, on a eu une sacrée ouverture d'esprit à cette époque-là. Parce que le protocole expérimental qui était mis en place à l'époque et piloté par Madame Pluchart, c'était de nous ouvrir à autre chose, déjà d'aller dans des musées et de faire le lien entre nos études, nos cours et des choses concrètes. Enfin, concrètement, le cours d'histoire était concrétisé par des visites au musée, par des faits historiques, des choses comme ça. C'était incroyable. Les autres élèves pensaient qu'on était en vacances tout le temps parce qu'on était tout le temps en sortie. Mais on n'a jamais été aussi bon que dans ce système-là. Parce que tout le monde travaillait, l'ambiance était excellente en classe. Moi, pour moi, c'était surtout les élèves qui étaient avec moi en classe expérimentale. Allez, 95% ont eu des super projets de vie et font des choses extraordinaires aujourd'hui. Il y en a même certains qui sont devenus gendarmes, il y en a qui sont devenus avocats, il y en a qui sont devenus chercheurs, il y en a qui font de la recherche aujourd'hui, enfin qui sont en thèse ou des choses comme ça. Mais il y a des choses extraordinaires qui se sont dégagées des profils qui étaient dans ma classe à l'époque. Et je pense que c'était une très bonne. Ça, c'était une grande. Aussi un des grands moments, un des grands tournants de ma vie étudiante. Après, une fois que j'ai eu le bac, ça a été toutes les personnes que j'ai rencontrées. Donc, voir des gens qui viennent de différents milieux et surtout comment ils réfléchissaient, comment ça se passait pour eux avant, ce qui était totalement différent pour moi. Puis aussi de me rendre compte de l'écart et du gap de niveau qu'il y avait entre moi et ces gens-là. C'est que, comme je l'ai dit, quand on vient d'un lycée comme Blanqui, la seule chose à laquelle on nous prépare, c'est à avoir le bac. Mais dans les autres lycées, on les prépare à ce qu'ils vont faire après le bac. Et ça, c'est complètement différent. Ça fait toute la différence. Effectivement, en France, on a la chance de tous avoir accès à l'éducation gratuitement, c'est génial. Et souvent, on reproche aux gens qui échouent, en leur disant, le reproche qu'on leur fait, c'est t'avais tout pour réussir, mais t'as rien fait. Je trouve ça injuste de dire ça parce que déjà, tu connais pas cette personne, tu sais pas par quoi elle est passée, tu connais pas sa famille, son histoire. Moi, j'en ai vu des gens échouer qui m'entouraient, hein, j'en ai vu échouer. Et jamais je me permettrais d'émettre le moindre jugement sur leurs échecs. Parce que ça serait juste scandaleux. Ces gens-là, s'ils ont échoué, c'est pour une raison. Et personne ne s'est jamais posé la question comme pourquoi? Pourquoi cette personne a échoué? Moi, il y a toutes les raisons possibles. Il y en a qui échouent parce qu'ils sont dans un cadre familial extrêmement difficile. Qui doivent prendre des responsabilités très tôt et qui n'ont pas le choix, qui doivent quitter le milieu scolaire le plus tôt possible. Malheureusement, certains font même des choix complètement déraisonnables, comme aller dans le trafic de drogue ou des choses comme ça. Mais pour certains, je dis pas pour tous, hein, c'est une question de survie des fois. Et puis, des fois, on leur dit qu'il n'y a pas d'autre choix et que de toute façon, ils feront rien d'autre et que jamais on les acceptera comme les autres dans la société. Et il y en a qui tombent dans le panneau en se disant, ouais, de toute façon, il n'y a que en gagnant de l'argent comme ça que je deviendrai quelqu'un. Malheureusement, cette réalité aujourd'hui existe et existe beaucoup trop même. Mais on ne connaît pas la réalité familiale des gens, on ne connaît pas les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, que ce soit au niveau peut-être financier ou en dehors de l'école. Enfin, ça peut être plein de choses comme ça. Et puis il y en a. Moi, dans ma classe, il y avait des gens, leurs parents ne savaient ni lire ni écrire. Donc, comment faire à ce moment-là quand tu as des difficultés pour faire tes devoirs? Effectivement, leurs parents sont hyper aimants, les aiment comme pas possible. Et quand tu as des difficultés à faire tes devoirs, c'est compliqué. Moi, je me souviens d'une image où un jour, ma grand-mère voulait me faire réciter. Ma grand-mère, c'est ni lire ni écrire. Et ma grand-mère me dit, viens, je vais te faire réciter tes cours. Et je me suis rendu compte ce jour-là qu'elle savait ni lire ni écrire parce qu'elle tenait le livre à l'envers. Elle faisait semblant de voir si je comprenais. Enfin, elle faisait semblant de comprendre ce que je lui disais, mais en fait, ce qu'elle voulait voir, c'est est-ce que j'étais sûr de moi quand je parlais? Si j'étais pas sûr, elle me disait recommence, c'est pas bien. Et si j'étais sûr de moi, même si je disais n'importe quoi, elle me disait ok. Mais je me suis rendu compte ce jour-là qu'elle ne savait pas lire ni écrire, mais c'est la réalité de beaucoup de gens. Et il faut en être conscient. Et malheureusement, En France, il y a une certaine injustice à ce niveau-là. C'est qu'on reproche aux gens, ouais, tu fais pas ce qu'il faut, c'est de ta faute, c'est machin, mais faut pas oublier qu'à la base, c'est des enfants. Hein. Il y a toujours des raisons à ces échecs-là. On s'en rend compte à certains moments, mais que quand ça devient dramatique. C'est là où on se pose des questions. Mais il y a tellement d'autres personnes pour lesquelles ça devient jamais suffisamment dramatique pour qu'on se pose des questions que ça reste, on reste sur le même constat aujourd'hui. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on a beaucoup de pays voisins qui ont un modèle éducatif totalement différent et qui est tellement plus rassurant et pour l'enfant et qui donne un environnement de travail tellement plus chaleureux et qui permet l'épanouissement personnel. C'est pas forcément des systèmes éducatifs qui permettent une excellence aussi grande que celle de la France sur certains points comme les mathématiques où on est des pionniers apparemment, mais c'est des environnements qui permettent aux gens de s'épanouir à leur rythme et de faire des choses qui les rendent heureux en réalité, tout simplement.